À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Cité, il y a une semaine, vous avez le plaisir d'entendre une conversation que j'ai eue avec Daniel Vermus. On a parlé de ses activités journalistiques, de ses voyages, de ses déplacements en Amérique latine, en Afrique. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a un continent qu'on n'a pas été visité encore par rapport à ses activités passées et présentes, je crois. C'est celle qui se situe en Inde, précisément. Daniel Vermus, vous êtes déjà allé donc dans ces pays? Vous avez visité l'Inde?
J'ai pas compté exactement. Je crois que c'est autour des 5 fois. C'était essentiellement pour le boulot du journaliste, sauf un voyage qui était une cure ayurvédique dans le Kerala. Alors là, c'était tout à fait personnel et j'en ai d'ailleurs beaucoup profité.
Lors d'une conversation récente, on a discuté de l'Inde sous un aspect que tout le monde connaît quelque part. C'est celui d'un monsieur Gandhi qui est né, je crois, il y a 150 ans en arrière. Comment ce message de Gandhi pourrait être utile en Occident, par exemple, parce que c'est un message de paix, de non-violence. Et comment on arrive à extrapoler ce message d'une culture indienne à une culture occidentale?
Voilà, ça c'est une question qui passionne le monde entier. Donc Gandhi est un de ces personnages hors du commun qui apparaissent très rarement. Il y en a 2 ou 3 par siècle, sans doute, comme Mandela aussi, Martin Luther King et quelques-uns qu'on connaît moins. Gandhi donc a réussi à montrer qu'on peut libérer un pays du joug de la colonisation par des moyens non violents. Mais ça, en fait, il a eu une vie très très violente malgré lui. Il a d'ailleurs été assassiné après avoir réussi son objectif, une année après. Et l'Inde elle-même a connu des violences énormes, notamment au moment de l'indépendance, puisqu'il y a eu la partition avec le Pakistan qui a fait des millions de morts et des dizaines de millions de gens sur la route dans les deux sens. Et cette plaie ouverte n'est toujours pas refermée. Donc, et l'Inde est également très violente aussi dans sa société, puisqu'il y a le système des castes dont tout le monde a entendu parler, qui fait que des millions et des millions de personnes sont considérées comme intouchables ou indignes et n'ont pas le droit d'accéder à un certain nombre d'activités. Et notamment aussi, il est impossible de se marier avec quelqu'un d'une caste inférieure, entre guillemets. Donc, cette trouvaille, cette merveilleuse héritage de l'Inde qui parle de non-violence, que Gandhi a si bien su mettre en valeur, qui est aussi un héritage des traditions védiques, de l'hindouisme dans son aspect le plus pur, et du bouddhisme aussi, qui est né en Inde, eh bien, cet héritage a de la peine à triompher en Inde aussi.
Vous avez parlé de non-violence. C'est une terminologie qui, j'ai le sentiment, est un peu rébarbative à énoncer en français, parce que non, c'est négatif, violence, c'est négatif. Est-ce que vous, le journaliste que vous êtes, avez une terminologie qui permet d'extrapoler d'une culture à l'autre ce mot non-violence sur quelque chose qui sonne mieux pour quelqu'un qui parle le français déjà?
Voilà, donc en hindi, on parle de ahimsa. A, c'est d'ailleurs comme dans les langues indo-européennes, hein, ça veut dire en dehors de. Donc ahimsa, c'est hors de la violence. C'est déjà un petit peu plus positif. C'est être aviolent. On n'a pas ce terme en français. Donc, mais évidemment, on peut parler d'être pacifique, d'être apaisant, d'être dans la médiation, dans la bienveillance, la compassion. Il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser qui tournent autour de la non-violence. Mais je pense que dans la situation actuelle, il est aussi nécessaire il faut utiliser la langue telle qu'elle existe, qui reflète quand même des antagonismes un peu partout, y compris à l'intérieur de soi-même. Et le fait de dire non à quelque chose est important quand même.
Il se trouve que tous deux, nous connaissons quelqu'un qui essaye de mettre en exergue, pour nous Européens entre autres, mais également en Inde, c'est un monsieur qu'on a rencontré à plusieurs reprises qui s'appelle Rajagopal et qui est à la tête d'un mouvement qui s'appelle Ekta Parishad. Ekta Parishad, ça veut dire quoi?
Ça veut dire le forum de l'unité. Bon, c'est un terme un peu, ça fait un peu administratif, un peu militant, disons. Mais bon, vous savez que dans les langues orientales, il y a toujours beaucoup de sens. Donc c'est une manière de dire il faut se mettre ensemble pour dépasser des difficultés que seul on ne peut pas résoudre. Et donc ce mouvement paysan a permis de faire accéder à une certaine auto-organisation de nombreux villages sous l'influence de leaders, souvent très jeunes, et des femmes, beaucoup de femmes, qui permettent de dépasser les situations de résignation ou d'impuissance, notamment dues au fait qu'on ne possède pas de terres, que les terres sont possédées soit par les grands propriétaires, soit par l'État, ou vendues à des multinationales, et qu'on n'a pas de moyens de vivre. Donc, en s'organisant et en s'auto-organisant, on va, en fait, grâce aux méthodes de la non-violence, trouver les responsables, que ce soit les autorités locales ou même nationales, ou que ce soit des propriétaires privés, on va rencontrer ces gens et leur parler d'être humain à être humain. Et si ça ne marche pas comme ça, mais souvent ça marche déjà, en tout cas un peu, et si ça ne marche pas, à ce moment-là, il y a des actions collectives qui sont menées, mais jamais sans verser jamais une goutte de sang. Donc ce mouvement indien, Ekta Parishad, en l'espace de 30 ans, a permis d'obtenir des terres, notamment à travers des marches pacifiques dans l'Inde, a permis d'obtenir des droits de propriété pour une dizaine de millions de paysans.
Donc ce sont des marches à la mode de Gandhi, la marche du sel, ça reste dans cette dynamique-là qui est culturellement quelque chose qui fonctionne bien là-bas.
Voilà, et donc, mais pas seulement en Inde, hein. Une marche, c'est quelque chose de visuellement impressionnant. Les gens qui voient passer des marcheurs sous leurs fenêtres sont saisis par c'est beaucoup plus que d'écouter les infos à la radio ou de lire un journal. Et on a vu d'ailleurs en Inde quand passaient des milliers, des dizaines de milliers de marcheurs qui allaient sur la capitale pour demander des terres précisément, eh bien, des gens spontanément descendent de chez eux, vont amener des paires de chaussures, vont amener des provisions, vont amener du réconfort. Même des gens des classes moyennes, même des gens de classe aisée ont cette capacité-là de s'émouvoir et de contribuer, au fond, à montrer leur solidarité.
Alors pourquoi ce monsieur Rajagopal a décidé un beau jour, je crois il y a 3 ou 4 ans en arrière, de faire une marche qui partait de New Delhi pour arriver à Genève, et ça devait arriver cette année en 2020, il y a eu des soucis à cause d'une petite bébête qui embête tout le monde en ce moment sur la planète, et puis il semblerait que ça va être reporté à l'année prochaine, mais avec quelle dynamique et quelle raison Rajagopal a décidé de venir ici avec une 50aine de marcheurs jusqu'à Genève, même si ça a été interrompu en route.
Alors, ce qui s'est passé en Inde, donc, je vous dis que ce mouvement existe depuis plus de 30 ans. Ils ont mené des différentes marches à l'intérieur du pays, et notamment deux importantes en 2007 et 2012, qui ont drainé jusqu'à 100 000 personnes et qui ont obtenu des résultats. Mais après 2012, il y a eu un changement politique important en Inde, l'arrivée au pouvoir d'un parti nationaliste hindou, le BJP, dirigé par Narendra Modi, qui a regagné un second mandat l'année passée. Du coup, ce gouvernement nationaliste hindou n'est plus du tout dans la même philosophie que le gouvernement précédent du Parti du Congrès, qui était ouvert au dialogue. Ce gouvernement est très très dur envers toutes les formes de contestation. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison d'ailleurs. Fort heureusement, Ekta Parishad n'a pas, vu qu'il a une pratique de non-violence, il n'a pas subi ce sort-là. Mais ce qui lui a été communiqué dès le départ, c'est de dire les choses que vous demandez, ce n'est pas du ressort du gouvernement indien. Ces politiques qui notamment visent à octroyer des terrains à des sociétés multinationales, sont liées à la liberté d'investissement garantie par les institutions internationales, notamment l'Organisation mondiale du commerce. Ce n'est pas une argumentation très, très solide, mais enfin, c'est ce qu'on leur a dit. Allez voir à Genève ou à New York ou à Washington si vous voulez être entendu. Nous, on ne peut rien faire.
Donc, ils ont botté en touche, comme on dit. Donc, mais est-ce que, bon, il a été démontré qu'après cette marche de ces 100 000 Dalits et autres adivasis en Inde, c'est 1 500 000 familles d'Indiens qui ont retrouvé une terre et un logement. Est-ce que, avec ce nouveau gouvernement, il y a un danger de retour à une situation plus dramatique pour ces gens-là aussi?
Oui, absolument. D'ailleurs, une bonne partie des promesses qui avaient été signées à l'époque par le précédent gouvernement en 2012 pour ces 1,5 million de familles. Et notamment, il y avait aussi une promesse de faire une réforme agraire et un comité de réforme agraire dans lequel étaient inclus les représentants de Rajagopal, de l'Ekta Parishan. Toutes ces réformes, ces promesses ont été soit gelées, soit le gouvernement est revenu en arrière. Donc il y a une menace réelle contre les mouvements paysans. D'ailleurs, on a vu avec la crise du Covid de nombreux villageois qui étaient partis un peu partout en Inde, dans des villes pour travailler un petit peu et envoyer de l'argent à leur famille, se sont retrouvés sans, du jour au lendemain, sans leur travail, donc sans moyen de subsistance, et même sans aucun moyen de rentrer chez eux, puisque tout a été bloqué, les transports, les frontières entre les États indiens ont été bloquées, et ça a généré une situation épouvantable. Il y a eu beaucoup de morts, d'ailleurs, suite à cela, qui fait que, heureusement qu'il y a quand même des gens en Inde qui sont solidaires et qui ont été aidés, ces personnes totalement démunies, mais c'était pas le gouvernement.
Il semblerait que, bon, évidemment, ça nous touche, mais ça nous touche des fois plus directement que l'on croit, puisque je sais que non seulement il y avait 50 marcheurs qui devaient venir d'Inde, mais également à peu près 450 autres qui arrivaient de toute l'Europe et même d'Afrique du Nord. Donc ça veut dire que quelque part chez nous, on a passablement de soucis à ce niveau-là, et c'est peut-être bien la raison pour laquelle Rajagopal a dit que si on se servait correctement des 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030, il y aurait des chances que la situation s'améliore en Inde, mais un petit peu pour tout le monde sur cette planète. Vous en pensez quoi ?
La référence aux objectifs de développement durable est tombée à pic, puisque ces objectifs ont été signés par tous les États, y compris l'Inde, y compris la Suisse aussi, en 2015. Et ils demandent toute une série de choses, et notamment l'élimination complète de la pauvreté, l'éradication de la pauvreté et l'éradication de la faim. Mais ils demandent également l'égalité homme-femme, la santé pour tous, la fin de toute forme d'exclusion, le respect de la dignité humaine, l'environnement, la lutte contre le changement climatique. Enfin, tous les problèmes de la planète sont abordés par ces 17 objectifs. Et ils sont tombés au moment où Rajagopal préparait ce projet de marche Delhi-Genève, et donc ils ont été complètement intégrés dans la problématique, dans le message que les marcheurs et marcheuses voulaient amener à Genève. Donc effectivement, comme vous dites, il y a 50 marcheurs, il y aurait pu en avoir beaucoup plus, mais c'est une question de moyens. Et sur les 50, il y en a à peu près un tiers qui sont des marcheurs internationaux, donc français essentiellement, espagnols, il y a aussi un Australien, je crois, il y a un Africain.
Un journaliste suisse aussi, je crois.
Voilà, un journaliste suisse, exactement, Michel Rim, pour ne pas le nommer.
On ne l'a pas nommé.
Et il y a un autre tiers qui est constitué de jeunes Indiens de classe plus ou moins favorisée, classe moyenne, classe aisée, des étudiants, des gens qui ont des professions dans le domaine des médias sociaux, par exemple. Et un troisième tiers constitué de leaders paysans, dont beaucoup de femmes, ou de leaders de peuples indigènes, adivasis, dalits, etc. Voilà, donc c'était ça l'idée, c'était de s'appuyer sur les objectifs de développement durable pour venir dire à Genève, et donc aux Nations Unies, nous sommes venus pour vous soutenir, nous sommes venus pour soutenir la réalisation concrète de ces objectifs que les États, que notre pays a signés.
Donc c'est un projet qui est suspendu cette année, qui aura quand même lieu, on l'espère tous, je crois, parce que je vois que ça travaille énormément au niveau international pour que ça se réalise l'année prochaine, d'autant plus que ce qui démontre bien la résonance forte et la crédibilité d'une telle démarche, il y a eu deux motions de poser à Genève, une par la ville et une par l'État, qui ont validé cette démarche et qui la soutiennent.
Oui. Absolument. Et d'ailleurs, ensuite, suite à aux motions de soutien du Grand Conseil genevois et de la ville de Genève, d'autres collectivités en Suisse et en Europe, il y a notamment la ville de Paris, la ville de Grenoble et d'autres qui sont en cours de signature. Il y a des dizaines de municipalités, Annemasse aussi, donc le Grand Genève est quelque part dans le coup, dans l'idée que ce mouvement n'est pas juste un mouvement de pauvres paysans indiens qui viennent crier misère à Genève, c'est un mouvement qui représente au fond la moitié oubliée du monde, y compris chez nous, de gens qui n'ont pas accès aux privilèges, à une vie normale, à des ressources, aux services publics, à des conditions de vie décentes. Et il y en a de plus en plus chez nous, notamment parmi les jeunes. Mais il y a aussi évidemment des gens qui souffrent de cette négligence, cet oubli en Amérique latine, en Afrique, et en Russie, etc. Donc c'est un mouvement mondial pour dire halt, stop à l'exclusion, parce que l'exclusion génère de la violence. C'est d'une violence contre les gens exclus d'abord, mais ensuite une partie de ces gens exclus vont forcément se révolter, même si on leur prêche la non-violence. Donc si on ne change pas ces conditions qui créent l'exclusion, qui créent l'inégalité, qui créent la rapacité de certains privilégiés, eh bien on ne va pas réussir à avoir la paix sur notre planète. C'est un peu ça l'idée, que c'est une idée très simple au fond, mais qui est véhiculée par cette marche. C'est une marche qui s'inspire aussi de mouvements spirituels ou de personnes qui ont marché toutes seules, comme Satish Kumar, qui est un grand philosophe indien actuellement vivant en Grande-Bretagne, qui est venu tout seul, sans un sou, depuis l'Inde jusqu'en Angleterre, pour témoigner de cette nécessité d'être humain. Donc le message de Rajagopal et de d'Ektaparishad, et donc de Jai Jagat, puisque c'est le nom de la marche, hein, Jai Jagat veut dire la victoire de tout le monde, c'est absolument d'avoir une humanité où tout le monde est inclus, tout le monde est respecté, parce que c'est la seule façon d'avoir un avenir sur notre planète.
Donc la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ayant quasiment encore une année de plus pour consolider ce message de Jai Jagat, je pense qu'il n'en sera que renforcé l'année prochaine lors de cette arrivée à Genève. Et je crois que la bonne nouvelle pour cette année, c'est qu'on a quand même une centaine d'amis qui viennent de France, qui sont très inspirés par ce mouvement, qui vont arriver de toute façon à Genève. Et j'ai entendu dire aussi qu'un groupe de demandeurs d'emploi de la Chaux-de-Fonds était aussi sur les starting blocks en ce moment pour arriver à Genève, je crois, le 26 septembre.
C'est ça. Donc, on ne sait pas exactement qui et combien de personnes viendront. Ce ne sera pas énorme. D'ailleurs, on ne sait pas si les mesures de sécurité à ce moment-là seront toujours en vigueur liées au Covid-19. Mais disons qu'on peut compter sur 100 à 200 ou 300 personnes qui seront là, essentiellement européennes. On espère qu'il y aura aussi quelques représentants d'autres continents vivant dans nos régions. Et donc, il y aura deux événements. On a ramené les ambitions, évidemment, à quelque chose de beaucoup plus modeste, hein, puisque la marche a été interrompue. Ça, on l'a pas dit, mais je vous le rappelle rapidement. Les marcheurs et marcheuses sont arrivés jusqu'en Arménie en mars dernier. Et c'est là que la marche a été interrompue et les marcheurs et marcheuses sont rentrés chez eux.
D'accord.
On espère que cette marche reprendra à l'endroit même où elle s'était arrêtée. Évidemment, ça fera pas un tronçon direct, intégral, Delhi-Genève. Ça sera en deux parties. Mais dans l'immédiat, il y aura symboliquement un événement à Genève le 26 septembre avec The Mill sur la plaine de Plainpalais, aussi en liaison avec Alternativa, un autre mouvement. Et certainement beaucoup d'autres partenaires qui ont soutenu Jai Jagat, en particulier les autorités genevoises. Et voilà, il y aura des marcheurs et marcheuses de Lyon, des chômeurs de la Chaux-de-Fonds, mais on ne sait pas, il y aura peut-être d'ici là encore d'autres personnes et mouvements qui se manifesteront. Je crois qu'il y a des gens qui viendront de France voisine aussi, et peut-être même de Belgique. Tout est ouvert. Et ensuite, il y aura un deuxième événement, après cette rencontre du samedi 26 septembre, qui sera une rencontre festive, où on racontera, on partagera. Il y aura certains, d'ailleurs, représentants de la marche qui sont allés de Delhi jusqu'à l'Arménie, qui seront présents. Il y aura un deuxième événement le 2 octobre. Le 2 octobre, ce sera le 151e anniversaire de la naissance de Gandhi. Et ce 2 octobre sera placé sous le signe, non pas de la non-violence en général, mais de l'économie non-violente. Donc ce sera relié au fait que tout le monde parle maintenant, après la crise du Covid-19, d'une relance économique, mais beaucoup de voix disent on ne va pas relancer les années folles de la croissance tous azimuts qui a détruit et l'environnement et la dignité humaine dans beaucoup d'endroits du monde. On doit conditionner cette relance à une économie non violente, c'est-à-dire non violente pour la nature et pour l'être humain.
Donc ça veut dire qu'on peut faire mieux, qu'on a tout en main pour le faire. Il ne s'agit pas de recommencer les erreurs qu'on a faites, parce que si on recommence une erreur, ça devient une faute, ce qui est un petit peu plus grave quand même. Donc l'objectif, c'est d'accueillir un maximum de gens qui vont faire une haie d'honneur, quelque part, j'espère, à cette centaine ou 200 marcheurs qui vont arriver le 26 septembre à 11h sur la plaine de Plainpalais.
La marche, c'est un témoignage personnel, c'est un sacrifice, parce que c'est épuisant, on a des ampoules, on a des courbatures, on a aussi un défi à surmonter, et c'est également un, disons, sur le plan collectif, c'est une danse, c'est un événement qui impressionne, qui est visuellement très très beau. Surtout quand elle se déroule dans la nature, c'est quand même un témoignage humain très fort, et c'est une transformation qui est donc à la fois intérieure, de dépassement de soi-même, et extérieure, c'est-à-dire de témoigner qu'on veut des changements et d'obtenir ces changements en rencontrant les personnes ou les institutions qui peuvent mener ces changements. C'est très important. Je pense que Genève est un lieu précisément pour déployer ce témoignage, et que ce soit au niveau des autorités locales genevoises qui devraient être aussi des témoins de ce que le monde doit faire pour changer, puisque c'est une vitrine des changements mondiaux à travers les objectifs de développement durable, et également de la Genève internationale, donc les Nations Unies et toutes les autres organisations de la société civile et même des multinationales d'une certaine façon qui gravitent autour. C'est un lieu précisément où ce type de message doit être répercuté. Et l'économie non violente est le message principal aujourd'hui si on veut dépasser les dangers créés par notre civilisation productiviste et matérialiste qui est en train de ronger les dernières ressources de notre planète.
Espérons qu'avec votre témoignage, les témoins dont vous parlez deviennent vraiment des acteurs, parce que c'est ça qui manque quelque part. C'est joli de constater, de comprendre, mais je crois qu'on est vraiment maintenant dans le monde de l'action.
Voilà, et nous espérons réellement que les autorités genevoises sauront saisir cette opportunité pour s'engager, notamment par exemple en signant l'Alliance mondiale pour le climat. L'Alliance mondiale, je crois, c'est des villes ou des collectivités, mais aussi en discutant. D'ailleurs, c'est de toute façon prévu à peu près à cette date que les autorités genevoises vont dialoguer avec la population pour discuter quelles sont les mesures économiques qui doivent être prises pour relancer l'activité. Donc, on tombe en plein dans la discussion. Et si ces autorités genevoises, que ce soit la ville ou le canton, entre dans l'idée d'une économie non violente, on pourrait l'appeler économie fraternelle, économie solidaire, économie sociale et solidaire, enfin, il y a beaucoup de termes pour ça, eh bien ce sera merveilleux, ce sera un message fort pour le monde entier.
Daniel Vermus, j'étais très heureux de pouvoir avoir ce nouvel échange avec vous. C'est enrichissant personnellement, c'est enrichissant pour nos auditeurs et nos auditrices. Je vous remercie donc de nous avoir consacré de nouveau un peu de temps. Et puis, on se retrouve le 26 septembre sur la plaine de Plainpalais dès 11h.
C'est un grand plaisir aussi pour moi. Merci beaucoup. Et à la plaine de Plainpalais le 26 septembre, le plus nombreux possible.
Merci la vie.